أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. طيب. Donc juste une faïda en début de ce cours, une faïda pour vous, hein. Faïda, on a expliqué, ça signifie parole profitable ou question religieuse. Parole profitable en rapport avec une question religieuse. C'est lorsqu'on dit Assalamu alaikum, il faut faire attention. Il y a énormément de gens, donc par ignorance ou par pour autre cause, lorsqu'ils passent le salam, surtout quand on n'est pas arabophone, on n'a pas la notion de l'importance de chaque lettre, chaque chose. On dit Assalam, Assalamu alaykum. Il faut faire attention, beaucoup de gens disent, sans faire attention, hein, en étant rapide, etc. Salam alaykum. On fait pas trop la différence comme ça. Salam alaykum. Mais si on met pas le alif lam et on le prononce comme ça, ça veut dire la mort sur toi. Le poison, la mort sur toi. Ça veut pas dire la paix sur toi. Fais attention des fois quand on dit salam alaykum. Sam. Le sam, c'est le poison, la mort. Salam alaykum. En arabe, on dit Assalamu alaykum. Alif lam. En début du salam, il y a un alif et un lam. On appelle ça el en arabe. El. Et ça se prononce selon la lettre suivante. Hein. Assalam. Assalamu alaykum. Donc on ne fait pas attention. Des fois, on dit Assalam alaykum. Donc c'est une petite faïda pour vous. Lorsque j'ai passé le salam, je me suis souvenu de cette faïda et que beaucoup de francophones font pas attention. Non. Non. Warzuqna al-ikhlas. طيب. Donc on est ce matin dans un nouveau cours de Tawhid, l'unicité d'Allah. subhanahu wa ta'ala, matière fondamentale, la plus importante, la plus noble. Maintenant, avec les exhortations qu'on vous a fait depuis l'ouverture de votre classe, vous avez compris normalement l'importance du tawhid et pourquoi les gens de la sunna insistent sur l'apprentissage et la pratique du tawhid et de tout ce qui tourne autour. Étant donné que, alors retenez bien ce lien, étant donné que les savants disent que le tawhid, c'est la matière, la connaissance, la matière de base. De base. Et que toutes les autres matières, toutes les autres sciences, elles sont dérivées. Furu'a. Elles sont des branches, elles sont dérivées du tawhid. Retenez bien ça. La base, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Toutes les autres matières, elles dérivent, elles sont dérivées du tawhid. Donc ça veut dire, indirectement, hein, qu'est-ce que ça signifie, entre autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de fawaïd hein, sur ça, mais beaucoup de détails. Mais ce qu'on voudrait vous communiquer, transmettre, ben, c'est que si on a un manque, si on a un manque dans une de ses branches, ses dérivés, on a un manque dans le tawhid. On a un manque dans le tawhid. Quand tu pratiques pas le comportement, c'est une désobéissance à Allah. C'est un manque de tawhid. Manque d'obéissance à Allah. C'est un exemple. Donc attention de ne pas considérer les autres choses autres que le tawhid comme pas importants, secondaires, puisqu'ils sont dérivés du tawhid, ils font partie du tawhid. Pourquoi les savants disent tout le Coran c'est du tawhid? Dans ce cas, si ce n'était pas le cas, dans le Coran il y a le fiqh, il y a tout dans le Coran, il y a la sunna, il y a tout dans le Coran. Si tout le Coran c'est du tawhid, c'est que toute chose, les autres matières, tout est en rapport avec le tawhid. Donc attention aux ambiguïtés que véhiculent différents types de personnes, d'individus. Effectivement, le tawhid, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais attention, il y a des choses qui sont également importantes qui viennent nous aider à concrétiser notre tawhid. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. On sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ceux qui auront un bon comportement, ils seront le jour de la résurrection ceux que j'aime le plus, qui sont le plus proche de moi. Ceux qui ont un mauvais comportement, seront les plus éloignés de moi, les plus détestés. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, en parlant de ceux qui seront le plus éloignés de moi et les plus détestés, il a dit que c'est des gens qui n'ont pas le tawhid. C'est des musulmans. On parle de musulmans. Donc forcément, ils ont un minimum de tawhid. Alors regardez, avec un minimum de tawhid, mais ils seront détestés et ils seront éloignés du prophète, alayhi salatu wassalam, parce qu'ils n'ont pas le comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention le comportement, faut pas dire que c'est pas important, c'est secondaire, c'est les gens de l'innovation qui disent que c'est qu'il faut mettre une grande, donner une grande importance au tawhid, au comportement. Et c'est comme ça qu'on retrouve des gens qui étudient le tawhid, Ils connaissent le tawhid, mais comportement zéro. C'est à cause de ça. Parce qu'il y a des gens de la sunna, ils n'ont pas mis le paquet dans le comportement. Donc on a des gens de la sunna aujourd'hui, ils se retrouvent avec un manque dans le tawhid. Un manque dans le tawhid. Et même un manque dans leur salafia. Dans leur suivi des gens de la sunna. Ils ont un manque. Parce qu'on l'a dit dans un cours précédent, la voie des salafs, c'est une croyance, c'est une voie et c'est un comportement. Si tu as un manque dans l'un des trois, on dira que tu n'es pas salafi dans le comportement, par exemple, parce que tu n'as pas le comportement des salafs, on dira dans le comportement, toi, t'es pas, tu suis pas les gens de la sunna. Donc, attention aux prétentions. Nous, on est les gens du tawhid, on fait partie des gens du tawhid. Nous, on est les. Nous, on est des salafis. Et en vérité, tu es en complète contradiction avec les salafs, les pieux prédécesseurs. Parce que salafi, c'est quoi? C'est suivre les compagnons, les pieux prédécesseurs. Et en vérité, tu es en contradiction toute la journée. Donc, dans le tawhid aussi, il faut faire attention, hein. C'est pareil. Wallahu a'lam. والله أعلم. طيب. Donc juste pour vous dire que c'est très 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 important. Et une faïda en plus, pour vous dire que tout ce qui concerne le tawhid, faut pas être uniquement focalisé sur les prétentions, les revendications. Parce que ça, c'est pas signe de concrétisation. Attention, les prétentions, les revendications, c'est pas signe de concrétisation. J'ai pas fait exprès de faire des rimes, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas volontaire. Hein. Donc, à ce moment-là, on va vous donner un dalil, hein, une preuve, pour venir confirmer. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 70 000 de ma communauté entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. 70 000 min ummati yadkhuluna al-janna bighayri pardon hisab wala azab. 70 000 de ma communauté entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Il a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ont dit, qui sont-ils? Décris-nous-les. Alors il y a tout un processus hein, dans le hadith. Ce sont ceux qui ont une confiance totale. On va partir du début hein, plutôt. Alladhina la yastarqun. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya. Ils ne la demandent pas la ruqya. Pourquoi? Parce que dans la demande de ruqya, il y a une sorte de manque. On va demander, on va se diriger vers l'être humain au lieu de se diriger complètement vers Allah Ta'ala. Donc cette question, on la fera en détail. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On la fera en détail dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. On étudiera ça en détail, Inch'Allah. C'est prévu, Inch'Allah Ta'ala. Donc ces compagnons-là qui vont entrer, Inch'Allah Ta'ala, 70 000. Donc 70 000, c'est pas forcément suite à un calcul. 70 000, c'est une base, mais il y aura plus que 70 000 qui entreront au paradis. Parmi les caractéristiques, ils ne demandent pas la ruqya, ils ne font pas, ils n'ont pas recours à la cautérisation. Wala yakta'un wa ala rabbihim yatawakkalun. Et c'est en leur Seigneur qu'ils ont complètement, complètement confiance. Donc vous pensez bien que pour concrétiser le tawhid, c'est pas comme ça qu'on dit que tu es un monothéiste, ça y est, t'as concrétisé totalement le tawhid, tu vas entrer directement au paradis. Il y a vraiment, en fait, le fait de le revendiquer, de le dire, de Wallah, c'est pas tous ceux qui disent j'ai concrétisé, je suis un genre du tawhid, qui ont concrétisé le tawhid. Faut pas rêver, hein. Déjà, regardez, hein. Bon, ça, c'est un chapitre qu'on fera également dans Kitab al-Tawhid. C'est tout un chapitre, hein. Chaque question qu'on est en train de vous mentionner ici, c'est tout un chapitre, subhanallah. Adib. Déjà, regardez, pour se situer, hein. Pour se situer et remettre en place ceux qui croient que ça y est, on a le Tawhid, ça y est, c'est gagné. On va situer les choses, inshallah. Les savants disent la concrétisation du tawhid, elle passe par trois choses. La concrétisation du tawhid, elle passe par trois choses. S'éloigner du polythéisme, s'éloigner des innovations et s'éloigner des interdits, des grands péchés. Les péchés, les grands péchés. Alors toi, tu dis gens du tawhid, mais tu fais des péchés. Oui, tu fais partie des gens du tawhid. D'accord, mais tu n'as pas concrétisé le tawhid. À partir du moment où tu es musulman, bien sûr que tu as un minimum de tawhid, sinon tu ne serais pas musulman. Mais ne dis pas que tu as concrétisé le tawhid à 100%, que tu es monothéiste à 100%, ça y est, tu crois que tu vas au paradis. Non, Allahu a'lam pour ça. Parce que si tu as fait des péchés, tu entres dans la catégorie des gens du tawhid, mais qui devront, par la permission d'Allah, hein, c'est Allah qui décide s'il veut y pardonner ou pas, mais à la base, la règle, c'est que bah, tu devras passer par l'enfer pour te faire purifier. Après, Inch'Allah, la personne, elle en sort et elle rentre au paradis. Ça, c'est les gens du tawhid qui ont fait des péchés. Alors, comment aujourd'hui on a des gens, ils se conduisent comme s'ils avaient concrétisé le tawhid. Alors que peut-être qu'un ammi, il a concrétisé plus que toi le tawhid. Peut-être qu'il y a des gens de la sunna. Alors, c'est vrai, c'est contradictoire, hein. Gens de la sunna qui font des bid'a. C'est contradictoire, hein. Il est où juste le, elle est où l'explication, le fait de dire gens de la sunna qui font de la bid'a, des innovations? Bah, tout simplement parce que ce sont des gens qui prétendent à la sunna, qui prétendent, mais qui pas forcément ils la suivent à 100%. Wallahu al-musta'an. Donc voilà, ça c'était une petite introduction. Pour vraiment que les étudiants prennent conscience l'importance du tawhid, je pense que, Inch'Allah, on espère vraiment que vous en avez pris conscience. Mais là, c'est autre chose. Là, c'est prendre conscience de la concrétisation du tawhid. Pas que parler, dire j'ai fait tel livre, nous ceci, nous cela. S'appeler mosquée du Tawhid, s'appeler l'institut du Tawhid, s'appeler la mosquée salafie, des choses comme ça. Et en réalité, quand tu vas, on va appeler un savant, on va lui dire, vous pouvez venir nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Il va te dire, eux, ils contredisent la voie des salafs, ils ne suivent pas la voie des salafs. Donc forcément, ils ont un manque dans le tawhid. Je vais vous donner encore un exemple plus. Encore un exemple. Quand tu critiques les ulamas, critiquer c'est gentil, hein. Quand tu dénigres les ulamas, tu désobéis à Allah. Puisque Allah au Ta'ala, il a fait les éloges de nos savants dans le Coran, surtout les savants de la Sunna. Il a fait ses éloges. Est-ce qu'on peut dire que tu as concrétisé le tawhid quand tu dénigres les alliés d'Allah, les aimés, les alliés d'Allah, les héritiers du prophète. On peut dire que tu as concrétisé Tawhid. Wallahu a'lam. Là, on dira Allahu a'lam, c'est douteux. Tu manges la chair empoisonnée des savants, c'est une déviance. Et là, il y aura forcément un manque dans l'obéissance à Allah, donc dans le Tawhid. Un manque dans l'obéissance à Allah. Vous savez que, une petite faïda au passage, vous savez qu'il y a des savants qui disent, vous savez, quand on désobéit à Allah et qu'on fait des péchés, c'est une forme d'obéissance au shaitan. Il y a des savants qui disent, ça s'appelle une forme d'obéissance au shaitan. Il y a même des savants qui disent que la désobéissance à Allah Ta'ala, c'est une forme de polythéisme. Alors ça, faudra aller faire une recherche. Je sais que ça existe, mais faut que je fasse une recherche sur ce sujet. Je ne vais pas m'avancer à le détailler. Naham. Wallahu al-musta'an. En fait, j'ai dit polythéisme, mais il faudrait que je vérifie est-ce que c'est une forme de polythéisme ou de mécréance. J'ai oublié. Je vérifierai et je vous tiendrai au courant sur ça. En tout cas, comme quoi, faut rien minimiser. Faut rien minimiser. Parce que nous, avec notre peu de connaissances, notre manque de connaissances, qu'on va juger comme minime, croyez-moi, auprès du shaitan, s'il nous pousse à le faire, c'est que c'est pas minime. Et attention, une faïda à ce propos. Après, on va commencer notre cours. Une faïda à ce propos, sachez, hein, sachez que le shaitan, méfiez-vous. Parce que nous, on est un peu, des fois, on ne fait pas attention, on est pris dans le mouvement. Et vous allez voir là, avec ce qu'on va vous dire, qu'il y a énormément de gens, ils sont tombés dans le panneau. Je vous le dis, hein, par expérience, par qal Allah, qal Rasoul, le shaitan, il va essayer en premier lieu de vous faire tomber dans ce qui fait le plus mal, ce qui est le plus dangereux, le plus nuisible pour vous. Il va essayer de vous faire tomber dans ça. C'est-à-dire là où il va récolter pour lui la grande récompense. Je vais vous donner des exemples. Le shaitan, il va essayer de vous pousser dans ce qui est le plus nuisible pour vous vis-à-vis d'Allah Ta'ala, vis-à-vis de la religion. Alors, comme cela est connu, on sait que le shaitan, la première chose qu'il va essayer de vous faire, c'est le polythéisme. S'il n'y arrive pas, c'est les innovations. S'il n'y arrive pas, c'est les péchés. Mais nous, on ne parle pas de ça là. Indirectement, oui, c'est ça. Mais plus précisément, on ne parle pas de ça. Le shaitan, il essaye, si vous préférez, de toujours de viser le jackpot avec chaque serviteur. Ça veut dire quoi? Le shaitan, par exemple, il va essayer de vous faire couper les liens de parenté. Les liens de parenté. Il va mettre le paquet sur ça. Donc le plus important, c'est les parents. Il va essayer de vous faire tomber, parce qu'attention, il y a un gros jackpot pour lui. Là, tu risques l'enfer, c'est grave, hein? Mauvais comportement avec la mère, coupure des liens avec la mère, on ne se parle plus avec la maman, les parents. Shaitan, il met le paquet sur ça. Il n'arrive pas à te faire faire du shirk, il te met le paquet sur ça, parce que c'est aussi grave. C'est juste après le shirk. La bonté envers les parents. Il va vous faire également, pour la femme, divorcer pour rien du tout. Ça aussi, c'est un gros piège, parce qu'il y a un avertissement d'Allah Ta'ala, la femme qui divorce sans raison valable, comme ça, comme ça, qui demande le divorce sans raison valable. Il va vous faire tomber dans, par exemple, dénigrer les ulama. C'est le plus haut degré de calomnie, Allahu a'lam. Parce que les savants disent, manger la chair des... Alors si on fait de la calomnie en règle générale, ça s'appelle manger la chair de ton frère, de ta sœur. Mais les ulama, les savants ont dit, manger la chair des ulama, elle est empoisonnée. C'est pire que de critiquer quelqu'un d'autre. Donc tant qu'à faire, le shaitan, bah écoute, on va viser le jackpot. Tant qu'à faire, c'est mieux qu'il critique les ulama. C'est mieux qu'il coupe les liens de parenté avec ses parents. C'est mieux qu'il insulte les gens. Alors il y a des gens qui disent, regardez, hein, ça rentre dans le tawhid, hein, donc même si on n'est pas rentré dans notre cours, c'est pas un souci, vous inquiétez pas, les cours, on a, inshallah ta'ala, du temps pour les faire. Mais ça, c'est très important. Alors vous voyez, regardez comment le shaitan, il va duper certaines personnes. Non, les insultes, c'est pas grave, ça reste des péchés. Regardez, hein, regardez la duperie. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit dans un hadith qui est le perdant le jour de la résurrection? C'est qui le mouflis? Le jour de la résurrection. Alors dans le sens du hadith, celui qui a frappé un tel, qui a fait de l'injustice à un tel, qui a insulté un tel, qui a, le hadith, hein, comme mentionné dans le hadith, au point où il va venir avec plein de hasanat yaoum al-qiyama, du jeûne, des salawats, sadaqa, etc. Mais avec tout ce qu'il a fait, insulté, frappé, etc., il lui restera plus rien à la fin. Hop, il est jeté en enfer. Alors comment il y a des gens, ils viennent aujourd'hui, ils nous disent, oh, ça reste un péché, moi je fais partie des gens du tawhid, ça reste un péché de d'insulter, de calomnier. Allahu Akbar. Cette personne n'a pas compris la religion. Donc c'est pas focalisé sur une seule personne, puisqu'il y a énormément de musulmans qui se font avoir sur ça. C'est pas grave. Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, dans un de ses cours, il explique que ne minimise, ne sois insouciant sur aucune action, sur aucun péché. Tu peux dire une parole qui va t'emmener en enfer. Tu peux être un adorateur fervent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux dire une parole, elle va t'emmener en enfer. Et Cheikh Abdelazak al-Badr, il a expliqué, il a donné comme exemple celui qui a dit à une personne un jour, Wallah, et Allah, il ne te pardonnera pas. Allah ta'ala, il a dit à peu près dans le sens, qui est-ce qui porte des jugements à ma place? Toi, tu vas en enfer et l'autre, il ira au paradis. Une seule parole sur la balance. Une seule parole que lui, il a. Un fervent adorateur. Hein. Une seule parole, il a négligé, il n'a pas fait attention, l'enfer. Allahu Akbar. Donc attention, les ambiguïtés du shaitan. Et le shaitan, eh ben, s'il a des, ce qu'on appelle des passoires, moi j'appelle ça des passoires, sont des gens. Le shaitan, il... comme des marionnettes. Alors attention à ces gens-là, hein, qui sont des marionnettes du shaitan, entre parenthèses, indirectement, hein, des passoires, les ambiguïtés, les passions, qui vont te faire croire que c'est pas grave. Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, il compare ça à... Vous savez, quand on prend des petits morceaux de bois pour faire un feu. On en met une à chaque fois, l'une sur l'autre. Ça part de rien du tout, hein. Il nous dit, Cheikh Abdelazak al-Badr, on met une petite brindille, une petite brindille, une petite brindille. Et à la fin, on ne fait pas attention. Quelques années après, ou quelques temps après, on a un énorme tas. C'est ça les péchés. C'est ça les péchés. Toi, tu fais pas attention, tu fais pas attention, et le jour de la résurrection, tu vas arriver, on va te dire, t'as une montagne, hein. Voire t'as 100 registres remplis de péchés. C'est pour ça que Allah Ta'ala, il nous demande de faire suivre nos péchés par des bonnes actions. C'est ça le tawhid. Si tu as le tawhid pour Allah, si tu as dans ton cœur l'unicité d'Allah, à chaque fois que tu sais que tu as fait un faux pas, un péché ou quoi, directement après, repentis-toi et cherche à faire une bonne action. Va nourrir un chat, si t'as pas d'argent, va nourrir un chat. Va nourrir des fourmis dans la rue comme le faisait un grand savant ou un parmi les salafs. Je sais pas, va nourrir. T'as pas d'argent, c'est pas grave. Allah, il est juste. C'est pas une question d'argent, la sadaqa. Va nourrir des fourmis, des abeilles, va faire un sourire à quelqu'un dehors avec la niya pour te faire pardonner. Va ramasser quelque chose dehors sur le chemin des musulmans. C'est une cause pour entrer au paradis. Allahu Akbar, la religion, elle est juste. Faut pas dire on n'a pas d'argent. Va te promener dans la rue, va chercher des musulmans et fais-leur des gros sourires. Sadaqa. Tu peux même faire la sadaqa chez toi. Tu te lèves le matin, tu fais un gros sourire à ton mari, à ta femme. Tu vas faire les courses. Quand tu vas faire les courses pour la famille, tu mets la niya, sadaqa fi sabilillah pour nourrir ma famille. Hop, t'as fait de la sadaqa. Ne perdons pas les hasanettes comme ça à aller faire les courses parce que on est des robots. Oui, je dois aller faire les courses. Fais la niya que tu vas nourrir ta famille. Comme le frère quand tu vas travailler, mets la niya que t'es fi sabilillah pour nourrir ta famille, pour obéir à Allah. Et en même temps, tu seras en train de travailler. En même temps, tu seras fisabilillah et regardez, en même temps, tu peux être en même temps talibul ilm. Subhanallah. Non, mais tout ce que tu as gagné, Khoya, mon frère, Akhi, Ourti, tout ce que tu as gagné juste dans ton intention, c'est le tawhid. C'est le tawhid. Plutôt que d'être insouciant comme ça, Allah, il t'a donné des portes de partout, des ouvertures. Tu ne les connais pas, tu ne les étudies pas. Et tu dis, je suis les gens du tawhid. Et tu fais des péchés, tu fais des péchés. Et toute la journée, tu dis, je suis salafi, je suis les gens du tawhid. Et il y a des awam qui disent pas ça. Hein. Ils sont devant toi. Ils ont peut-être une meilleure valeur auprès d'Allah. Ils sont plus aimés auprès d'Allah que toi toute la journée. On s'est fait piéger. Hein. Attention, on se fait piéger. Attention. Ou alors tu fais des œuvres. Tu es parmi les gens de la sunna, mashallah. Tu prends des cours. Tawhid, Allah ibarak, mashallah. Tu partages la science, tu prends des cours. Regardez comment le shaitan, il t'a eu. Regarde, très cher étudiant. Regarde, prends garde, très chère étudiante, comment le shaitan, il t'a eu. Mauvais comportement avec les voisins. Vous savez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ça? Celle qui jeûne, celle qui fait des salawats, des prières surérogatoires, en plus qui prie la nuit, si elle nuit à ses voisins, elle ne goûtera pas au paradis. À peu près dans le sens du hadith, hein. Alors, tout ça pour vous dire, regardez le shaitan, comment il... 99 portes de bien, il t'ouvre, mais il t'en laisse une. C'est là où tu vas glisser sur la flaque d'huile. Tu savais pas, tu es en train de marcher, il y a une flaque d'huile, boum, t'es tombé. Et bien sur le dos, hein. Ciao, tu peux plus te relever. Le shaitan, c'est comme ça qu'il calcule. Crois pas qu'il calcule... le petit péché... Même le petit péché, chez lui, c'est important. Pourquoi? Parce que un petit plus deux petits plus trois petits plus quatre petits, ça peut te ramener au grand péché. Et les grands péchés, ça peut te ramener à la mécréance. Attention, attention, attention. Ne rien négliger. Mais si tu as le tawhid, si tu as pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu te feras pas avoir. Fais des œuvres pour Allah Ta'ala. Concrétise ton tawhid. Le tawhid, c'est pas que du blabla. Le tawhid, c'est la pratique. Vous voulez le dalil? Vous voulez le dalil? Que le tawhid, on va vous donner la preuve dans le Coran, une des preuves, hein, que le tawhid, c'est pas que l'apprentissage. La concrétisation du tawhid, elle passe par la pratique. Allah Ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, la plupart d'entre vous, vous connaissez ce verset, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité en vérité à part Allah. Le prophète sallallahu Allah Ta'ala, dans ce verset, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache La ilaha illallah, ça veut dire apprends la ilaha illallah. Allah Ta'ala, donc, il a fait précéder l'apprentissage, la connaissance, avant la parole et l'action. On est d'accord sur ça. Il lui a dit donc, apprends le tawhid. Ce verset, il veut dire apprends le tawhid. Mais dans la suite du verset qui est rarement mentionné, pas chez les savants, hein. Les savants, ils le mentionnent. Mais on ne fait pas souvent attention. Dans la suite du verset, il y a les œuvres qu'après le tawhid, wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Dans la suite de ce verset, il y a l'obligation des œuvres. Après la science, les œuvres. Dans la suite du verset. Ça, c'est un dalil qu'il est obligatoire après, une fois qu'on a mis. On apprend le tawhid de le mettre en pratique. Tayyib. Concernant notre ouvrage ici, Al-Wajibat, Al-Mutahattimat. Al-Wajibat, Al-Mutahattimat. On est arrivé dans le metn, la parole de l'auteur, lorsque l'auteur nous dit, et si on te demande qui est ton Seigneur? Donc si on te demande qui est ton Seigneur, on a expliqué en petit résumé dans le cours précédent qui est notre Seigneur et comment le connaître. On a expliqué. L'auteur, il nous dit. Alors, je reviens au tout début. Hein. Rabbi Allah, alladhi rabbani, wa rabba jami' al-alamin Mon Seigneur, c'est le Seigneur de toutes les créatures, tout l'univers, toutes les créatures. C'est celui qui m'a créé, donc qui m'a éduqué également. Et c'est le Seigneur de toutes les créatures, de par sa grâce, la création, le fait que Allah Ta'ala il nous ait créé, il nous ait guidé vers l'islam. Ça, c'est une immense ni'ma. Grâce. Wahua marboudi, laïsali siwa. Il est mon adoré et je n'ai pas d'autre adoré à part lui. Donc il faut savoir une chose. C'est que la seigneurie d'Allah Subhanahu wa ta'ala Retenez bien ça. La seigneurie, le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il soit... Normalement, j'ai enregistré Naam, oui. Le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il soit... La seigneurie, ça consiste en quoi? Le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il soit le créateur, le roi, l'administrateur, celui qui donne la subsistance. C'est ça la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors on a parlé un petit peu hein, dans le cours précédent. Ne vous inquiétez pas, dans les cours de tawhid, il y aura beaucoup, beaucoup de détails sur ça. Concernant la seigneurie d'Allah, il y a quelque chose d'important à savoir, à connaître. La seigneurie d'Allah, elle est générale sur toutes les créatures. Il faut savoir que quand on dit Allah est le Seigneur de l'univers, de toutes les créatures, la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah, il a la seigneurie sur toutes les créatures. Alors vous allez me dire, mais comment il a la seigneurie sur les kuffars qui ne croient pas, etc. Toute créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle est soumise à Allah ta'ala, qu'elle ne le veuille ou pas, qu'elle croit ou qu'elle ne croit pas. La subsistance des mécréants, elle vient d'où? Elle vient d'Allah, qu'elle soit halal ou haram. Les savants disent que la subsistance, même qui est haram, c'est Allah qui leur a donné. Toute subsistance, elle vient d'Allah. On verra dans un autre cours que la subsistance, elle se divise en deux catégories. Naam, la subsistance halal et la subsistance haram. Et tout ça, c'est Allah qui le donne. Également, le fait qu'Allah ou Ta'ala les ait créés, ils sont les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les esclaves d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils marchent sur la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils respirent l'air qu'Allah a créé, subhanahu wa ta'ala. Donc, que tu crois ou que tu ne crois pas, tous les êtres humains sont sous la seigneurie, soumis à la seigneurie d'Allah Ta'ala. C'est Allah Ta'ala qui les protège, qui les préserve jour et nuit, il faut bien le savoir. Chaque être humain a des anges qui le protègent. Et ça fait partie des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne les voit pas, mais on a des anges qui nous protègent par la grâce d'Allah. Quand tu as fait un accident de voiture et que vous étiez... Ça, c'est histoire vraie hein, que je vous raconte. Quand il y a eu un accident de voiture, ils étaient quatre par exemple ou cinq dans la voiture. La voiture, elle a été pliée comme un cube. Et il y a eu un survivant, il a été éjecté avant. Mouim, il a été éjecté, il n'est pas mort. Vous croyez que c'est du hasard Et ça, c'est un jeune du quartier à l'époque, hein, qui était un frère à l'époque, qu'on était parti voir à l'hôpital et qui avait témoigné. Tous les autres, ils sont morts. Lui, il a été éjecté comme si quelqu'un l'a pris, l'a tiré de la voiture. Mais malheureusement, même avec ça, il y a certains jeunes, pourtant ils ont goûté à la religion d'Allah, etc. Mais même avec ça, la dunya, elle a pris le dessus, les passions, elles ont pris le dessus et ils ont tourné le dos à la religion, malheureusement. Alors qu'ils ont eu des signes devant eux. Wallahul musta'an. Donc, chaque être humain est soumis à la seigneurie d'Allah. Il est sous la seigneurie d'Allah. C'est Allah qui administre tout. qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, c'est Allah qui donne le rizq, même pour eux, qu'ils ne croient ou qu'ils ne croient pas, etc., etc. À ce propos, on le verra, Inch'Allah, plus tard. Il y a une faïda, mais normalement, on va la voir plus tard, Inch'Allah. Alors, وَهُوَ يَحْفَظُهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَ أَوْ ذُكِرَ أَنَّ مَنْ كَانَ مَوْصُوفٌ بِهَذِهِ الْوَصْفِ أَوْ بِهَذَا الْوَصْفِ وَهُوَ بِإِقْرَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُشْرِكِينَ هُوَ رَبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا شَرِيكَ لَهُ أَنَّ قَائِنٌ بِجَمِيعِ الْخَالِقِ وَمَنْ مُدَبِّرْ لَهَا وَرِزْقُهَا وَالَّتِي يَسِيرُ أَمْرُهَا هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Hein. Il n'y a personne qui sort de la seigneurie d'Allah Ta'ala, même les kuffars. Même les kuffars. Ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, ils peuvent prétendre ce qu'ils prétendent, ils sont quand même soumis à Allah d'un certain côté. Hein. D'un certain côté. Ils ne sont pas soumis dans sa législation. Ils ne sont pas soumis dans sa législation, mais ils sont soumis dans sa seigneurie. هذا أمر متفق عليه بين الكفار والمسلمين. Alors ça, on en a parlé dans le cours précédent. C'est que même les associateurs, les kuffar mushrikin, à l'époque du prophète, les associateurs à l'époque du prophète, ce sont ceux qui n'ont pas accepté le message du prophète, le peuple du prophète, alayhi salatu wassalam, on les appelle les associateurs. Même eux, ils ont reconnu la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont reconnu. Ils reconnaissaient qu'Allah Ta'ala, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui donne la subsistance. Mais ils n'ont pas reconnu que c'est lui, Allah Ta'ala, qu'on doit adorer seul sans associé. La preuve dans le Coran que les associateurs à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Le verset qui dit, et lorsqu'on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils répondent, c'est Allah. Ala sa'altahum man khalaqa. Ala sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Et lorsqu'on leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent c'est Allah. Donc là, c'est sur la seigneurie, sur l'unicité dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, les associateurs et les musulmans, ils sont d'accord. À un paramètre près. Hein. On vous donne une faïda ici, parce que beaucoup dans les doros, parce que c'est vrai, hein, dans les cours, la plupart disent ils ont reconnu la seigneurie, mais en réalité, il y a des savants comme Cheikh Al-Fawzan, ils disent à un paramètre près. En réalité, ils ne l'ont pas reconnu à 100%. Pourquoi? Ils l'ont reconnu, hein, la seigneurie d'Allah. Ils sont d'accord avec les musulmans, c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui donne la subsistance, c'est lui qui a tout créé, etc. C'est lui qui administre, etc. Mais, à un point près, ils n'ont pas reconnu la seigneurie. Entièrement, pourquoi? Parce que si tu reconnais entièrement, normalement, à 100% la seigneurie d'Allah, tu dois reconnaître sa divinité. Si tu as reconnu à 100% la seigneurie d'Allah, comme quoi c'est Allah qui a tout créé, comme quoi c'est Allah le seigneur de l'univers qui donne la subsistance, ben tu dois croire automatiquement ben, que c'est Allah qui est digne d'être adoré, seul sans associé. Mais eux, non. Ils ont reconnu que c'est le seigneur, la seigneurie, mais ils n'ont pas reconnu que c'est l'adoré, exclusif. Donc il y a des savants, ils disent, c'est une faïda qu'ils ont reconnue, mais pas dans l'absolu en vérité. Wallahu alam, c'est une faïda pour vous, c'est important. On dit en général qu'ils ont reconnu la seigneurie d'Allah. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand tu regardes bien, pas à 100%, ils ne l'ont pas concrétisé. Sinon, ils auraient rejeté toute leur divinité, leur statue, etc. Et ils auraient cru, pris comme adorateur exclusif, adoré, pardon, exclusif, Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors ça, on vous a fait un petit résumé, mais dans les ouvrages qui vont suivre, dans l'explication des ouvrages qui vont suivre, les quatre qawaid al-arba'a, les quatre bases, on va l'étudier ça. On va l'étudier, inshallah ta'ala. Plus en détail, Afwan. Alors. Non, c'est ce qu'on nous dit à la suite. Hein. Ce qu'on vient de vous expliquer, c'est exactement ce qu'on nous dit à la suite. Alors, la suite de la parole de l'auteur qui nous dit Laïsali Marboudun Siwa, je n'ai pas d'autre adoré à part Allah. Je n'ai pas d'autre adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça signifie? On nous dit que dans cette parole, il y a le sens de la ilaha illallah. Pourquoi? Dans cette parole, il y a une négation et une affirmation. Je n'ai pas d'autre adoré, négation. À part Allah, affirmation. Donc quand on dit je n'ai pas d'autre adoré à part Allah qu'Allah, c'est le sens de la ilaha illallah. C'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Je n'ai pas d'autre adoré. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. À part Allah, c'est l'affirmation de l'adoration d'Allah seul, sans associé. Non. Donc ça c'est important. Le seul qui est digne d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y a une notion ici qu'on vous a déjà transmise, mais on va recommencer pour que ça soit ancré. Pourquoi on parle de seigneurie et juste à la suite? On parle directement d'adoration, d'exclusivité dans l'adoration après avoir parlé de seigneurie. Retenez bien cette règle. Retenez bien cette règle. Pourquoi? Retenez bien, barakallahu fikum, c'est très important, c'est une règle que vous devez retenir. C'est parce que lorsqu'on a reconnu pris connaissance et reconnu l'unicité de la seigneurie. Ça implique obligatoirement qu'on doit reconnaître l'unicité de la divinité. Regardez, je vais vous apporter, on va vous apporter la preuve dans le Coran à ça. La preuve de quoi? Que quand tu as reconnu la seigneurie d'Allah, automatiquement, c'est automatique. Tu dois reconnaître l'adoration d'Allah. L'exclusivité dans l'adoration d'Allah. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, Sourate al-Baqarah, j'ai oublié le numéro du verset, j'ai oublié le numéro du verset, mais c'est dans le début, hein. Allahu A'lam, ça ne dépasse pas les 20 versets, c'est entre le premier et le 20e verset. Voire le dixième, non, vingtième quand même. Wallahu a'lam, c'est entre le premier et le vingtième, c'est dans les débuts. Hein. Ya ayyuhannas, ubudu rabbakumulladhi khalaqakum. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Qui vous a créé ceux, vous et ceux d'avant vous, peut-être que vous craindrez. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Le verset où Allah Ta'ala, il parle de la Seigneurie, Allah Ta'ala qui a fait descendre, qui vous a créé, qui a fait descendre l'eau. Le verset. Alors Allah Ta'ala dans ce verset, les savants disent, regardez, Allah Ta'ala, il a éclairci d'abord sa Seigneurie. Il vous a créé, il vous a donné l'eau, il a fait pousser les végétations. D'abord, Allah Ta'ala, il se sert, c'est-à-dire, il éclaircit, il vous transmet, il vous fait prêter attention à sa seigneurie, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset? Fala taj'alou lillahi andadan wa antum ta'lamoun. Et ne donnez pas d'ego à Allah alors que vous le savez. Alors que vous savez. Ça veut dire alors que vous savez quoi? Alors que vous savez par la seigneurie d'Allah, le Très-Haut, qu'il est le Seigneur, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a tout donné, c'est lui qui a fait pousser les végétations, c'est lui qui fait descendre l'eau. Donc, ne donne pas d'associé de par sa seigneurie quand tu sais que c'est Allah le Seigneur, sa seigneurie, eh ben, tu dois l'adorer exclusivement. Allah Ta'ala, il a éclairci ça dans ce verset. Quand tu as compris la Seigneurie, ça y est, maintenant tu dois l'adorer. Et le problème par rapport aux associateurs, le souci par rapport aux associateurs, c'est qu'ils ont reconnu la Seigneurie, ce qui ne fait pas entrer en islam. Ce qui fait entrer en islam, c'est de reconnaître la divinité d'Allah. Pourquoi? Parce que l'unicité de la divinité, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration, cette catégorie, c'est celle-là qui fait entrer en islam. Pourquoi? Parce que l'unicité de la divinité, elle englobe l'unicité de la seigneurie. Ça veut dire que l'unicité dans l'adoration et de la divinité, elle y est compris l'unicité de la seigneurie, elle est dedans. Si tu as reconnu qu'Allah Ta'ala, il est digne d'adoration seul sans associé, bah ça comprend que tu as reconnu en même temps sa seigneurie, mais pas l'inverse. Si tu as reconnu la seigneurie d'Allah, tu dois reconnaître sa divinité, mais ça ne veut pas dire que tu as reconnu forcément sa divinité. La preuve, les associateurs, ils ont reconnu la seigneurie, mais pas la divinité. J'ai été un petit peu vite. J'espère que tout le monde a compris. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il se manifeste. Inch'Allah ou Ta'ala. Attention, il ne faut pas avoir honte, hein. Les savants disent, n'atteins pas la science, celui qui est orgueilleux et celui qui a honte. N'hésitez pas, nous on est là pour ça. Et ça s'appelle pas du irtilat, du mélange. Et ça ne s'appelle pas parler avec les hommes si on pose une question à son enseignant. Sinon, tous les grands savants, où on a des questions qui sont enregistrées, où la sœur, elle parle pendant 10 minutes et qu'il répond, où les savants, où il y a des femmes qui leur téléphonent en direct, Salam alaikum Cheikh, et elles parlent avec le savant, il n'y a personne qui a dit que c'était du haram, c'était du irtilat. Là où ça devient haram, si on fait de la complaisance avec l'enseignant ou le savant, on fait de la complaisance. Mais là, envoyer un commentaire ou quelque chose, faudra vraiment être fort et insister pour qu'il y ait de la complaisance. Barakallahu fikum wa alaykoum assalam. Sourate 2, verset 21-22. Ah, mashallah, c'était plus que 20. C'était par là, mashallah. Barakallahu fikum. Donc ce verset, qu'on vous a mentionné, sourate al-Baqarah, Sourate 2, versets 21 et 22. Naam. Tamam. Donc, Inch'Allah, Ta'ala. Quelle heure est-il? Il est 32. Inch'Allah, Ta'ala. On a fait 59 minutes. On va attendre que ça fasse une heure. Pour arrondir, hein. Pour arrondir, comme ça. Inch'Allah, Ta'ala. Notre cours touche à sa fin. Hayakumullah. Notre cours touche à sa fin. N'hésitez pas pour la mémorisation, pour la maîtrise des cours. N'hésitez pas, hein. Ceux qui peuvent retranscrire, réécouter, retranscrire, n'hésitez pas, hein. Parce que ça va être une forme. Nous, on le faisait à l'Institut Tirmorpol. Écoutez, là, on est en train de vous faire des cours. Le cours qu'on est en train de vous faire et les cours qui vont suivre. C'est tout ce qu'on a retranscrit lorsqu'on était avec notre professeur à l'Institut de Cheikh Mokbel. Alors, on suivait le cours, on écoutait bien ce que disait le professeur, et ensuite, on rentrait chez nous, on écrivait tout sur un cahier. Ben, ce cahier-là, les élèves de la première classe, on leur a déjà montré notre cahier. Ce cahier-là, on l'a encore, et c'est avec ça qu'on vous donne les cours, les retranscriptions. Donc sachez que la retranscription, il y a du profit dans quel sens? Ben, c'est comme si tu avais suivi le cours deux fois. Une fois tu as écouté et une autre fois tu as retranscrit, ça rentre mieux. Ça rentre mieux. Et la troisième fois, si tu as envie de te relire, tu as ta retranscription sur un livre. C'est tout bénéf, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est tout bénéfique. Voilà comment la science, tu peux la faire. Je sais que c'est beaucoup de travail. Je sais, hein, je suis conscient de ça. Hein. Nous, à l'époque, on est parti à l'Institut de Cheikh Mokbel, c'était pour se concentrer à 100% sur l'étude de la science. On ne faisait pas autre chose. Bon, il y avait des fois, on faisait autre chose, hein. On avait des activités, etc. Mais c'est pour ça que c'est bien d'aller dans un institut, c'est pour se concentrer complètement à la science. C'est comme ça qu'on devient perfectionné dans la science, qu'on se perfectionne. Pour ceux qui ne sont pas spécialisés dans la retranscription, etc., c'est pas leur truc. Vous pouvez réécouter. Vous pouvez réécouter. Pour que ça rentre. Wallahu a'lam. En tout cas, barakallahu fikoum. Qu'Allah préserve tous les élèves de l'institut. Amin. Wa hayyakum Allah. Wa subhanakallahumma wa ma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته